présente Magique de Daniel Steele. Lue par Françoise Cadol. À mes enfants merveilleux et tant aimés, puisse-t-il y avoir toujours de la magie dans vos vies? Cherchez-la, croyez en elle, chérissez-la. Vous êtes la magie de ma vie. Je vous aime de tout mon cœur et de tout mon amour. Maman Daniel Steele. Chapitre 1. Le dîner en blanc est une ode à l'amitié, à la joie et à l'élégance, en même temps qu'un hommage aux somptueux monuments de Paris. Un peu partout dans le monde, d'autres villes ont tenté de l'imiter, sans jamais l'égaler. Il n'y a qu'un seul Paris, et l'événement y est tellement bien organisé, tellement admiré, qu'il est difficile de l'imaginer dans un autre lieu. Tout a commencé il y a près de 30 ans, quand un officier de marine et sa femme décidèrent de célébrer leur anniversaire d'une façon insolite, en donnant rendez-vous à une vingtaine d'amis à Paris, devant un de leurs monuments préférés, avec pour consigne de se vêtir de blanc. Tables et chaises pliantes furent installées, nappes, belles vaisselles et bouquets de fleurs disposés, et tous partagèrent les mets raffinés que chacun avait apportés. La magie débuta ce soir-là. Ce fut une telle réussite qu'ils renouvelèrent l'expérience l'année suivante, en choisissant un autre lieu tout aussi prestigieux. Depuis, tous les ans, la tradition du dîner en blanc se perpétue un soir de juin. Et les gens sont toujours plus nombreux à y participer. Seules les personnes invitées peuvent assister à cette soirée secrète, devenue l'une des plus prisées de Paris. Le code vestimentaire est resté le même. Tenue blanche et élégante jusqu'aux chaussures, et tous les convives s'efforcent de le respecter. Chaque année, le dîner en blanc se déroule devant un monument différent. Les possibilités ne manquent pas à Paris. Sur le parvis de Notre-Dame, devant l'Arc de Triomphe, sur le Trocadéro, face à la Tour Eiffel, place de la Concorde, entre les pyramides du Louvre, place Vendôme. Depuis sa création, le dîner a investi une multitude de sites, tous plus magnifiques les uns que les autres. L'événement a pris une telle ampleur qu'il se tient aujourd'hui en deux lieux distincts afin de pouvoir accueillir tous les participants, dont le nombre s'élève à près de 15 000. Difficile d'imaginer autant de personnes se comportant correctement et appliquant les règles à la lettre. Et pourtant, le miracle se produit chaque année. Les convives sont toujours invités par deux, et chaque couple apporte une table et deux chaises pliantes de taille réglementaire. La table doit être habillée d'une nappe blanche et dressée de porcelaine, d'argenterie et de cristal, comme au restaurant ou à la maison lorsqu'on reçoit des hôtes de marque. Les aliments blancs sont encouragés, mais l'essentiel est de prévoir un vrai repas. Les hot-dogs, hamburgers et autres sandwichs sont proscrits. Tout doit pouvoir tenir dans un chariot. À la fin de la soirée, les reliefs et déchets sont ramassés, jusqu'au moindre mégot de cigarette, dans des sacs poubelles blancs que l'on remporte chez soi. Il ne doit rester aucune trace du passage des dîneurs, qui disparaissent aussi gracieusement qu'ils sont apparus. Malgré la foule que l'événement réunit, aucune demande d'autorisation n'est déposée. Cela gâcherait l'effet de surprise. Et la police ferme les yeux. Autre fait remarquable, personne ne tente de resquiller. Les invitations au dîner en blanc sont très convoitées. Mais ceux qui n'en ont pas ne cherchent pas à se présenter le soir même en prétendant figurer sur la liste. Jusque-là, il n'y a jamais eu d'incident majeur ni d'altercation. C'est une soirée où la joie domine, dans le respect des autres et l'amour de Paris. Une grande partie du plaisir tient au mystère qui entoure chaque année le lieu de la fête. En 30 ans, le secret, jalousement gardé par les 6 organisateurs, n'a jamais été trahi. À 20h15 précise, ces derniers informent les sous-chefs, appelés rallieurs, des premiers points de rendez-vous où devront se présenter les convives. Divisés en 2 groupes, ceux-ci sont prévenus l'après-midi du jour J. L'excitation commence alors à monter, tandis que l'on tente de deviner où se dérouleront les festivités. Les lieux de rendez-vous aident à se faire une idée puisque la destination finale ne doit pas se trouver à plus de 5 minutes à pied. Mais il y a généralement plusieurs sites remarquables dans les environs immédiats. À l'heure dite, les invités arrivent, habillés de blanc et munis de leur pique-nique. Les amis se hèlent et se rejoignent dans la foule. Chacun repère avec joie les têtes connues. La gaieté et la fébrilité se lisent sur tous les visages. Puis à 20h45, le lieu du dîner est enfin révélé. Chaque couple se voit alors assigner une place de la largeur exacte de sa table au sein d'une longue rangée. À 21h, 7000 personnes sont réunies par petits groupes d'amis devant chacun des deux monuments choisis pour la soirée. On déplie les tables et les chaises, on arrange les nappes et les chandeliers en argent comme pour un mariage. 15 minutes plus tard, les dîneurs sont installés, le verre à la main, aussi excités que des enfants conviés à une fête d'anniversaire surprise. Lorsque la nuit commence à tomber, toute la place s'illumine de milliers de bougies et les verres en cristal scintillent à la lueur des flammes. À 23h, on allume des cierges magiques au son de l'orchestre dansant qui anime la soirée. Sur le parvis de Notre-Dame, les cloches de la cathédrale retentissent et le prêtre bénit la foule du haut du balcon. Enfin, à 00h30 exactement, les 7000 dîneurs plient bagages et disparaissent dans la nuit comme autant de petites souris, ne laissant derrière eux que le souvenir inoubliable d'un bon moment passé entre amis. Le dîner en blanc a ceci d'intéressant qu'il ne donne lieu à aucune transaction financière. Dès lors que l'on est invité, nul besoin de s'acquitter d'un quelconque droit d'entrée. Personne ne peut acheter sa place. Ce sont les organisateurs qui choisissent leurs convives. Et l'événement n'est pas dénaturé par des questions d'argent. D'autres villes ont tenté d'en faire une manifestation payante, attirant du même coup de grossiers personnages prêts à débourser des sommes folles pour participer à la soirée qu'ils parviennent à gâcher à tous les autres. Le dîner en blanc de Paris est resté fidèle à ses valeurs d'origine. À l'approche du mois de juin, les heureux élus attendent la fête avec impatience, et ils ne sont jamais déçus. Tous se souviendront de cette soirée comme d'un moment véritablement empreint de magie. Jean-Philippe Dumas, 39 ans, participait au dîner en blanc depuis maintenant 10 ans. Étant ami avec l'un des organisateurs, il avait le droit d'inviter 9 couples pour former un groupe de 20 personnes dont les tables étaient mises bout à bout. Chaque année, il sélectionnait ses convives avec le plus grand soin, mêlant à ses amis proches quelques nouvelles connaissances qui sauraient, selon lui, respecter les règles de l'événement, s'entendre avec les autres et prendre du bon temps. Rien n'était laissé au hasard. Il remplissait sa mission très sérieusement. Et si d'aventure, l'un de ses hôtes se révélait ennuyeux, n'appréciait pas la fête, ou tentait d'en profiter pour se créer un réseau de relations, ce qui n'est vraiment pas le but de la soirée, il le remplaçait l'année suivante. Néanmoins, la plupart de ses invités étaient des habitués qui n'auraient raté ce rendez-vous pour rien au monde. 7 ans plus tôt, Jean-Philippe avait épousé une Américaine, Valérie, qui avait vite succombé au charme du dîner en blanc. Depuis, elle l'aidait à choisir ses convives. À 35 ans, Valérie était rédactrice en chef adjointe chez Vogue et en bonne place pour succéder à sa supérieure, dont le départ en retraite était prévu 2 ans plus tard. Jean-Philippe, lui, travaillait dans une société d'investissement réputée. Il avait rencontré Valérie 8 ans auparavant, alors qu'elle venait à peine d'arriver à Paris, et avait eu le coup de foudre pour cette grande et belle femme aux longs cheveux bruns. Valérie était à la fois chic et sans prétention, intelligente et pleine d'humour, et s'entendait à merveille avec les amis de Jean-Philippe. Ensemble, ils formaient le couple idéal dont tout le monde recherchait la compagnie. Ils avaient eu 3 enfants en l'espace de 6 ans, 2 garçons et 1 fille. Valérie avait travaillé pour Vogue à New York dès sa sortie de l'université et attachait beaucoup d'importance à sa carrière. Mais elle parvenait malgré tout à conjuguer vie de famille et vie professionnelle.